une leçon de géopolitique.
Une guerre inégale. Le jeudi 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine aux environs de 4h du matin. Ce conflit a un énorme impact sur les pays d'Occident. Ce conflit met en opposition la Russie et l'Ukraine. Nous allons voir pourquoi nous parlons de guerre inégale. En effet, la Russie est la seconde puissance mondiale militaire, alors que la Russie n'est que la 22e. Le 10 janvier 2022, l'armée russe comptabilisait 4573 aéronefs contre 318 pour l'Ukraine, 772 avions pour la Russie contre 169 pour l'Ukraine. Donc au niveau matériel, la Russie est supérieure à l'Ukraine. L'Ukraine est toujours inférieure de la Russie au niveau effectif, car nous constatons que l'Ukraine possède en 2021 246 445 militaires actifs avec 1 million de réservistes, et la Russie compte 850 000 actifs avec 1 250 000 réservistes.
Nous pouvons constater que la Russie est au-dessus dans tous les points au niveau du domaine militaire, car même dans le budget, la Russie en consacre plus. La Russie consacre 4,3% de son PIB, ce qui représente 61,7 milliards de dollars, et l'Ukraine consacre 4,1% de son PIB, ce qui représente 5,9 milliards de dollars, car son PIB est 10 fois plus inférieur. Pour comparaison, le budget de la France est de 41 milliards. Déjà que la Russie est au-dessus en effectif matériel que l'Ukraine, la Russie a quelque chose qui est très important et qui peut faire la différence dans une guerre. Cette chose est l'arme nucléaire. L'Ukraine n'a plus d'armes de destruction massive actuellement. L'Ukraine n'a plus d'armes nucléaires car c'est la Russie qui en a hérité quand elle est devenue indépendante. Comme dit à l'instant, l'arsenal nucléaire de la Russie est l'unique héritier de l'arsenal nucléaire de l'Union soviétique.
En 2022, la Russie est la première puissance nucléaire militaire du monde. La Russie est aujourd'hui à la tête d'un arsenal de plus de 6000 armes nucléaires qui peuvent être lancées par des missiles. Ils peuvent être lancés par des navires de surface, des sous-marins ou largués par des avions en comparaison. C'est plus que les États-Unis qui en seraient à 5600 et même bien plus que la France qui n'en dispose que de seulement 300. Lors du quatrième jour de l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine, le président russe, prenait la parole pour annoncer la mise en alerte de la force de dissuasion de l'armée russe. Ce qui sous-entend que la Russie n'hésiterait pas à utiliser l'arme nucléaire lors de la guerre. Pour conclure, la Russie est au-dessus de l'Ukraine à tous les niveaux. C'est donc pour cela que nous pouvons parler de guerre inégale.
Tristan Chamard,
Clément Crétal
et Anthony Adam.
La crise en Ukraine qui dure depuis maintenant 8 ans a pris un tournant majeur le jeudi 24 février 2022. En effet, Vladimir Poutine, président russe, déclare les premiers bombardements sur le sol ukrainien avec l'entrée sur le territoire des armées. L'Ukraine est aujourd'hui le pays au centre des préoccupations internationales. Mais cette entrée en guerre résulte de longs mois de tensions qui émergent entre les deux pays. La Russie n'adoptant pas la proximité que montre l'Ukraine par les démocraties occidentales, mais encore moins son désir d'adhérer à l'OTAN, Vladimir Poutine entreprend ses menaces. L'adhésion à l'OTAN est un point récusable pour le président russe qui y voit une réelle menace pour ses frontières. Mais pourquoi l'OTAN est-il un sujet au cœur de cette guerre russo-ukrainienne? Nous verrons tout d'abord d'où provient cette tension au sujet de l'OTAN, mais aussi qu'est-ce qui pousse l'OTAN à adhérer à cette organisation.
Premièrement, qu'est-ce que l'OTAN ? L'OTAN est l'acronyme de l'Organisation traitée de l'Atlantique Nord créée en 1949. Cette organisation politico-militaire forme une alliance entre des pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Créée après la Seconde Guerre mondiale, elle a pour objectif premier la sécurité de défense collective et la paix. En 1990, des représentants des pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord font une promesse orale aux dirigeants russes de ne pas étendre cette alliance au-delà des frontières de l'Allemagne réunifiée. Malheureusement, cette promesse ne fut qu'orale. En 2007, les pays baltes intègrent l'OTAN, une nouvelle qui a été dure à accepter pour la Russie, car cela ravive un sentiment d'encerclement et un sentiment de trahison de la part des Occidentaux. Après cette adhésion, la Russie ne compte plus céder à cette expansion à l'Est, mais l'Ukraine compte bien rejoindre l'OTAN. Pour la Russie, l'adhésion de Kiev à l'OTAN est une nouvelle ligne rouge à ne pas franchir. Cela devient une des principales revendications de la Russie dans cette guerre nouvelle. Mais pourquoi l'Ukraine veut intégrer l'OTAN? L'Ukraine souhaite adhérer à cette organisation afin de principalement garantir la sécurité de leur pays, explique le président ukrainien le 14 février.
L'OTAN, ne respectant pas sa promesse, n'a cessé de regarder vers l'Est depuis la chute de l'URSS, passant de 16 pays à 30 en intégrant ces deux dernières décennies essentiellement des membres de l'ancien bloc soviétique. Les liens avec l'Ukraine se sont resserrés en 1997 avec la signature de la charte de partenariat spécifique portant sur la création de la commission OTAN-Ukraine chargée de mener la coopération plus avant. La coopération qui s'est approfondie au fil du temps est bénéfique aux deux parties. L'Ukraine contribue activement aux opérations et missions dirigées par l'OTAN. En septembre 2020, le président ukrainien Zelensky a approuvé la nouvelle stratégie de sécurité nationale de l'Ukraine qui prévoit le développement du partenariat spécifique OTAN-Ukraine en vue d'une adhésion du pays à l'organisation. L'article a été réalisé par Lisa Ricard-Ferrarini et Maëlou Gilles.
За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки.
L'invasion russe en Ukraine est l'expression d'un rapport de force fondé sur la possession d'importantes ressources énergétiques. En ne menant pas une politique d'économie d'énergie, pourtant indispensable, l'Europe le s'est rendue vulnérable. Il ne sera pas question de prétendre ici avoir vu venir l'événement. On n'a rien vu venir. Il est intéressant d'ailleurs de constater que de nombreux livres de spécialistes parus récemment sur le retour de la guerre n'avaient pas un mot sur la Russie, étant focalisé sur la tension Chine-États-Unis. Nous allons voir quels sont les enjeux ainsi que les effets de cette guerre au niveau écologique. Tout d'abord, nous analyserons les ressources en jeu, puis les dépendances existantes, et enfin les effets du réchauffement climatique. La Russie possède des ressources de pétrole et de gaz immenses, et grâce à cela, elle conserve ainsi les deuxièmes réserves mondiales identifiées de pétrole, derrière l'Arabie Saoudite. Le déclin de sa production pétrolière ne devrait intervenir qu'à partir de 2030. Elle est aussi une puissance agricole. L'Ukraine est aussi un important grenier et c'est sans doute un des enjeux de l'invasion russe, avec les ressources houillères et minières du Donbass. Malgré son déclin démographique et la chute de son économie vis-à-vis des États-Unis ou de la Chine, la Russie dispose d'une puissance énergétique et agricole impressionnante. Et avec cette ressource non seulement pétrolière, mais aussi agricole, elle est un partenaire incontournable de l'Europe et de la Chine.
Mais à cause de cela, les Européens ont bâti les conditions de leur dépendance. C'est d'autant plus le cas que les pays de l'Union Européenne, dont les ressources énergétiques sont limitées, n'ont pas su mettre en œuvre des politiques réduisant leur dépendance. Ces politiques portent un nom, économie d'énergie et de matière. Indépendamment même de l'argument géopolitique, elles sont indispensables du fait du changement climatique. Et pourtant, bien que la nécessité de cette politique soit recommandée de longue date par le GIEC ou par d'autres experts, la consommation d'énergie par les États de l'Union européenne n'a quasiment pas bougé depuis 1990. Elle se situe toujours autour de 900 millions de tonnes équivalent pétrole. Et comme la Russie fournit 30% de leur pétrole aux Européens et environ 40% de leur gaz, les Européens ont bâti les conditions de leur dépendance et donc de leur faiblesse. En France, cette dépendance fera augmenter le prix de l'essence et du diesel ainsi que le gaz malgré qu'elle s'alimente à travers les usines norvégiennes, algériennes ou encore hollandaises. Le réchauffement climatique ne va pas améliorer cette dépendance. L'étude de certains spécialistes, dont le GIEC, démontre que les effets du réchauffement climatique entraîneront une baisse du rendement dans de nombreuses régions du monde. La Russie, du fait de son positionnement géographique, pourra alors bénéficier de ce réchauffement climatique, non seulement au niveau agricole qui leur permettra une exploitation agricole plus vaste, mais aussi au niveau commercial, du fait de la fonte de la banquise lui permettra d'améliorer ses voies commerciales et permettra de trouver de nouveaux puits de pétrole. Par conséquent, on a pu observer que la Russie bénéficierait du réchauffement climatique de par le réchauffement considérable des zones situées au nord, dont la majorité du territoire russe, l'Union européenne, elle, n'en bénéficiera pas et augmentera sa dépendance à la Russie.
За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки.
Quelles sont les sanctions économiques mises en œuvre par l'UE sur la Russie? L'invasion russe sur le territoire ukrainien a provoqué le démarrage d'une forme de soutien collectif en Europe. En effet, de nombreuses organisations et entreprises européennes ont décidé d'impacter économiquement la Russie afin d'asphyxier financièrement le pays, de le priver durablement de ressources étrangères et ainsi pousser le belligérant à la capitulation. En ce sens, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les sanctions économiques que l'Union européenne a décidé d'infliger à la Russie. Alors premièrement, l'Union européenne a mis en place une réduction de l'accès de la Russie au marché européen des capitaux, ce qui va notamment participer à la montée de l'inflation, qui va améliorer les sorties de capitaux et ce qui finalement affaiblira progressivement la base industrielle de la Russie. Ensuite, Visa, Mastercard et American Express ont décidé de suspendre leurs opérations en Russie, ce qui signifie que les cartes émises en Russie ne peuvent plus servir à faire des achats à l'étranger et également les cartes émises à l'étranger ne fonctionnent plus en Russie. On peut ajouter que l'Union européenne a décidé de geler les avoirs de Vladimir Poutine et des oligarques russes dans son enceinte. Ce gel consiste à interdire l'accès des oligarques et de Vladimir Poutine à leurs biens situés au sein de l'Union européenne. Et ces biens peuvent être de nature différente comme nous avons pu le constater avec la réquisition des navires et des yachts russes dans l'espace maritime français. De plus, le 27 février 2022, les 27 États membres de l'Union européenne ont annoncé la fermeture de l'accès à l'espace aérien aux appareils détenus par les Russes ou enregistrés et contrôlés par ces derniers. Cette sanction se complète par l'interdiction de vente d'avions et d'équipements aux compagnies aériennes russes.
En supplément, l'exclusion de la Russie de nombreux événements culturels comme l'Eurovision ou bien la Coupe du Monde de football représente une forme de sanction économique, car elle prive la Russie d'événements prestigieux, représentant un enjeu économique important. Alors à présent, il faut savoir que toutes ces sanctions sont exécutées dans l'optique de mettre en place certaines conséquences qui sont susceptibles de freiner ou bien de stopper la guerre. La première conséquence recherchée par ces sanctions est un potentiel bouleversement des plans russes. En effet, en bloquant les appareils de guerre russes, comme les bateaux ou les avions, cela risque de limiter les belligérants dans les opérations qu'ils souhaiteraient entreprendre. D'un autre côté, les conséquences recherchées aspirent aussi à freiner la mobilité des capitaux. C'est-à-dire qu'en provoquant le gel de ces derniers, cela limite les mouvements de la banque centrale. Ainsi, cette dernière ne pourra plus utiliser ses capitaux pour des opérations avec les États-Unis ou bien l'Europe, ce qui impactera durement l'économie de la guerre. Car finalement, le but principal de ces sanctions et notamment de perturber fortement le fonctionnement de l'économie russe, car c'est cette dernière qui est le moteur de la guerre. Nous avons notamment pu le constater avec l'exclusion de nombreuses banques russes du réseau bancaire SWIFT, qui vient totalement bouleverser l'économie nationale, car cette sanction empêche les établissements bancaires de communiquer entre eux les informations essentielles des opérations qu'ils souhaitent mener vis-à-vis des autres, ce qui affecte la valeur du rouble. Cet article a été rédigé par Liam Grégoire et Odiber Céline.
За наше відродження спинити загарбницькі руки.
Quelle est l'opinion russe face à la guerre en Ukraine? L'opinion russe est très largement divisée par la guerre en Ukraine. Certains lassés de celle-ci, d'autres en revanche frontièrement opposés car considérant les Ukrainiens comme des frères. Mais aussi beaucoup de personnes considèrent que ce n'est qu'un simple nettoyage légitime, par leur propre conviction ou l'intoxication des chaînes d'information pro-russes. Malgré ce que le monde pense et la diabolisation des Russes et leur opinion assimilée directement à celle de Poutine, la majorité d'entre eux n'ont pas souhaité cette guerre et regrettent ce qu'il arrive. En effet, l'opinion russe est très peu connue. Et pour cause, de nombreux réseaux sociaux, chaînes de presse, médias d'opposition sont fermés par l'État russe comme le média BBC, Facebook, ou alors Twitter qui est très restreint, ou bien Dodge et Echo. Deux médias d'opposition très connus par les Russes. En dehors de ces limites informatiques de l'expression, l'expression de l'opinion est quasi impossible en manifestation réelle. Toutes celles ayant débuté se sont soldées par des répressions policières et arrestations immédiates des manifestants pacifiques anti-guerre.
L'opinion russe est très approuvée et quasi inexistante aux yeux du monde. Alors que pour une grande partie d'entre eux, la guerre n'était pas une option et n'avait aucun conflit avec l'Ukraine. La censure du peuple russe penche dangereusement la Russie vers une dictature et accentue la vision occidentale d'une Russie autoritaire à la Staline comme le témoigne une caricature reprise par le compte Twitter officiel de l'Ukraine, montrant une image de Staline en train de féliciter Poutine. La population russe est aujourd'hui soumise à la désinformation et à la propagande de Moscou, qui persiste dans cette guerre où seuls Poutine et ses membres du gouvernement en connaissent les issues et les projets. De plus, l'isolement vis-à-vis du monde occidental accentue le renfermement de la Russie sur elle-même et l'indignation des Russes, subissant de plein fouet les sanctions économiques euro-américaines ainsi que le SWIFT, le système de transactions bancaires mondiales. La population se retrouve donc isolée sans une réelle connaissance de la situation actuelle causée par l'intox du gouvernement et de plus sanctionnée pour quelque chose qu'ils n'ont pas commis, mais que l'on commet en leur nom sans pouvoir manifester leur désaccord. Article rédigé par Ivan Clair et Kofi Yann Odilon.
За спокій в країні, за наше відродження.
Le rouble, nerf de la guerre. Peut-on considérer le rouble comme une faille ou une arme dans cette opération militaire que mène la Russie en Ukraine? Tout d'abord, qu'est-ce que le rouble? Le rouble est l'unité monétaire russe en circulation depuis 700 ans. Elle a connu depuis sa création de fortes dépréciations, notamment en 2009, à cause de la chute du prix d'hydrocarbures dont la Russie en est l'un des principaux exportateurs. Aujourd'hui, le rouble est considéré comme une monnaie faible. Cependant, la Russie garde son statut de puissance mondiale, car malgré la perte de son statut de leader économique, elle demeure une des économies les plus importantes au niveau international, avec des ressources naturelles inégalées, une population s'élevant à plus de 140 millions d'habitants, étant la deuxième puissance militaire du monde.
Suite à la décision du président russe Vladimir Poutine, annonçant le 24 février 2022 la mobilisation de troupes russes en Ukraine, l'Union européenne décide d'appliquer des sanctions, comme par exemple l'exemple de la réduction à l'accès du marché européen, ou encore l'exclusion de plusieurs banques russes du système bancaire SWIFT. Qu'est-ce que le système bancaire SWIFT? Le système bancaire SWIFT est une société financée de télécommunications fondée en 1973 afin de remédier aux inconvénients des flux de papier. La société opère au sein de 239 banques réparties dans 15 pays différents, sous la forme de coopération bancaire. La plateforme n'est pas un moyen de paiement, mais une messagerie qui permet de sécuriser les échanges commerciaux.
Cependant, nous pouvons nous demander si ces sanctions économiques vont vraiment appauvrir la Russie et sa monnaie. Car en fermant les échanges commerciaux avec la Russie, l'Europe se prive des ressources en gaz et en blé que le procurait la Russie. Ce qui va provoquer une hausse des prix mondiaux du gaz et du blé. Certes, la Russie ne va plus pouvoir vendre son gaz ainsi que son blé à l'Europe, mais va le vendre plus cher aux autres consommateurs, notamment la Chine, qui entretient un lien très fort avec la Russie, comme en témoigne l'accord signé en 2014 entre la compagnie russe Gazprom et la compagnie chinoise CNCP, China National Petroleum Corporation. Car en effet, si l'offre baisse, la demande quant à elle reste la même. Cependant, encore quelques interrogations surviennent quant à ces sanctions économiques et l'impact qu'elle aura sur le cours de l'économie mondiale. Ce texte a été réalisé par Léo Plaisant, Faustine Nicolas Mailleux et Camille Caru.
За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки.
Pourquoi Poutine considère-t-il l'Ukraine comme une partie intégrante de la Russie? Pour saisir l'héritage commun des deux pays et comprendre le discours tenu par le président russe dans toute son ampleur, il faut remonter dans le temps de plus d'un millénaire. À ce moment-là, Kiev était la capitale ukrainienne du premier État slave, la Rus' de Kiev. Entre 730 et 820, des guerriers marchands venus de Scandinavie s'installent sur les actuelles terres ukrainiennes. Et, en l'an 888, Vladimir le Grand se convertit au christianisme orthodoxe et se fait baptiser dans la ville criméenne de Kherson. Il règne alors sur un vaste territoire et ses descendants vont exercer le pouvoir jusqu'à l'invasion mongole de 1237-1240. C'est cette histoire entremêlée qu'utilise Vladimir Poutine pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Il a récemment déclaré que les Russes et les Ukrainiens constituent un seul peuple, un ensemble. Ces 10 derniers siècles, des puissances concurrentes ont plusieurs fois redessiné la carte de l'Ukraine. Au XIIIe siècle, des guerriers mongols venus d'Orient prennent la Rus' de Kiev. À la fin du XIVe siècle, profitant du déclin de la puissance mongole, la grande principauté de Moscou et le grand-duché de Lituanie, qui rejoindra plus tard la Pologne, se partagent les anciennes terres de la Rus'. Au XVIIe siècle, le territoire ukrainien est séparé en trois. Au sud, c'est le Khanat de Crimée, sous le contrôle de l'Empire ottoman. Les territoires à l'est de la Dniepr, la rivière qui sépare l'Ukraine en deux, font partie de la République des deux nations de Pologne et de Lituanie, tandis que ceux à l'est font partie du Tsarat de Russie. Lors de la grande expansion de l'Empire russe, les terres ukrainiennes du sud-est, qui appartenaient à la République des deux nations, sont annexées au Tsarat entre 1654 et 1667. D'ailleurs, une paix éternelle est même signée entre la Russie et la Pologne, qui cède Kiev à la Russie en 1687. C'est plus d'un siècle plus tard, en 1793, que la rive droite ukrainienne est annexée par l'Empire russe. Au cours des années qui ont suivi, une politique d'acculturation connue sous le nom de russification a interdit l'utilisation et l'étude de la langue ukrainienne, et les gens ont été poussés à se convertir à la foi orthodoxe russe. L'Ukraine constitue alors l'une des petites tribus du grand peuple russe.
C'est au XXe siècle que l'Ukraine va endurer un de ses plus graves traumatismes. Suite à la révolution communiste de 1917, l'Ukraine connaît une guerre civile avant d'être totalement absorbée dans l'Union soviétique.
Joseph Staline, président communiste de l'Union soviétique de 1920 à 1953, met en place une famine qui va causer la mort de millions d'Ukrainiens. Par la suite, Staline va faire venir des citoyens russes pour repeupler les campagnes ukrainiennes. L'Est de l'Ukraine est très tôt passé sous le joug russe. De ce fait, les habitants de l'Est entretiennent de forts liens avec la Russie et ont tendance à soutenir des dirigeants pro-russes. Après l'effondrement de l'URSS en 1991, l'Ukraine a pris son indépendance, mais la transition vers la démocratie a été difficile. Surtout à l'Est, car beaucoup d'Ukrainiens souhaitaient retrouver la stabilité politique des périodes passées. À la chute de l'URSS, la Crimée est sous la coupe de l'Ukraine et Boris Eltsine reconnaît l'indépendance de l'Ukraine avec la Crimée dans ses frontières. En 2014, la Russie annexe la Crimée, territoire ukrainien, mais d'une manière non reconnue par la communauté internationale. L'Ukraine est donc dans une situation de guerre depuis quelques années, mais sans résolution politique. Cet article a été rédigé par Mathilde Paille et Julie Ribals.
За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки.
Le rôle de la propagande russe dans la guerre contre l'Ukraine. Si aucune cyberattaque majeure contre les infrastructures critiques ukrainiennes n'a pour l'heure été constatée, l'affrontement numérique s'est en revanche largement déployé sur le terrain de la propagande. La mystérieuse lettre Z, visible sur les chars de l'armée russe, symbole d'adhésion à l'action de la Russie en Ukraine. Le gymnaste russe Ivan Kouliak est monté sur le podium de l'épreuve des barres parallèles de la Coupe du Monde. Sur son juste corps, il arbore fièrement la lettre Z, un symbole mystérieux, visible depuis le début de la guerre, sur les chars russes. Une allure provocatrice lorsqu'on sait que l'Ukrainien Kodvoun Ilia figurait à ses côtés, car il est le vainqueur de l'épreuve. Un message politique qui pourrait faire l'objet de sanctions de la part de la Fédération internationale de gymnastique. Mais que signifie ce symbole? Se distinguer de l'Ukraine. Sur le web, tout le monde a donné son interprétation. Certains pensent au Z pour Zelensky, le président ukrainien, d'autres font l'hypothèse du Z pour Zapad, signifiant Ouest en slave. Dans une interview pour le tabloïd britannique The Sun, une source militaire à Kiev explique qu'il s'agit de reconnaissance. Les chars ukrainiens et russes sont très similaires. Il est crucial que toute force attaquante puisse être distinguée, en particulier depuis les airs, où les forces russes ont aujourd'hui un contrôle total, confie-t-il. Le spécialiste américain de la politique de défense russe, Rob Lee, va plus loin dans l'explication. Sur la chaîne de télévision Sky News, il explique que ces symboles indiquent dans quelle zone de l'Ukraine les chars russes se dirigent. S'ils ne servaient qu'à distinguer quels sont les véhicules russes des autres, l'utilisation d'un seul symbole suffirait. Le fait qu'ils soient différents démontre donc qu'ils sont comme des panneaux indiquant les directions prises par les différentes unités combattantes sur le terrain, décrypte-t-il. Finalement, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie semble avoir résolu ce mystère. Des tweets postés mercredi montrent l'utilisation du Z sur des affiches de propagande. Des postes qui reprennent les termes de démilitarisation et dénazification, très utilisés par Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.
Le Kremlin derrière la propagande. Ce nouveau symbole, clairement nationaliste, est promu par le gouvernement russe. Comme le rapporte le média américain, en Russie, plusieurs personnes sont apparues en public abordant ce symbole sur leur t-shirt ou voiture. Selon Camille Galiv, chercheur indépendant et ancien membre du Wilson Center, les autorités ont lancé une campagne de propagande afin d'obtenir un soutien populaire à leur invasion de l'Ukraine. Une stratégie payante du Kremlin qui commencerait à porter ses fruits dans la population russe. On observe des publications et diffusions de photos et vidéos sur les réseaux sociaux de la Russie datant de 2014, les mettant en avant, montrant leur supériorité. Cependant, les personnes spectatrices ne savent pas forcément que ces photos ne sont pas d'actualité. Dans les écoles russes, la propagande se fait afin de justifier l'intervention en Ukraine. Aussi, des groupes pro-russes orchestrent diverses campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux en utilisant de faux profils ou des comptes piratés pour dépeindre l'Ukraine comme un simple pion aux mains des Occidentaux. Mais les grandes entreprises américaines et européennes du web ont décidé de passer à la contre-offensive afin d'expurger de leur plateforme cette avalanche de fausses informations. On assiste donc à un blocage de la propagande russe. D'un côté, les médias de propagande russe ont été interdits par l'Union européenne. De l'autre, les plateformes de Twitter à Facebook, en passant par Google, ont été muselées par Moscou. Mais une autre guerre numérique se répand en Europe, celle d'une cyberattaque contre les infrastructures télécoms, et elle a déjà commencé. Une heure après le discours de Vladimir Poutine annonçant l'offensive terrestre sur l'Ukraine, le réseau satellite Viasat, couvrant notamment l'Europe, dont l'Ukraine, et assurant la connexion Internet pour des dizaines de milliers de personnes, a été la première victime de cette grande guerre des réseaux qui vient tout juste de débuter. La propagande russe sur les armes biologiques inquiète les Occidentaux. Moscou a prétendu devant le Conseil de sécurité des Nations Unies avoir découvert en Ukraine un réseau de laboratoires spécialisés dans les armes bactériologiques soutenus par les États-Unis. Lors d'un conseil de l'ONU le 11 mars 2022, l'ambassadeur russe a rendu compte de ce qu'a déclaré Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères. Dans cette déclaration, il aurait annoncé avoir découvert un réseau de laboratoires de recherche sur les armes bactériologiques en Ukraine. D'après ses mots, il y aurait des expériences très dangereuses qui seraient menées dans ce laboratoire. Il ajouterait même que ces laboratoires sont en collaboration avec la défense américaine. On aurait pu y croire, sauf que l'État américain avait déjà prévu le scénario à l'avance devant ce même conseil le 16 février en évoquant le fait que ce serait un moyen pour la Russie de justifier ses propres bombardements chimiques. Cette propagande russe a provoqué une levée de boucliers des Occidentaux et certains pays craignent que Moscou se serve de cette excuse pour utiliser eux-mêmes des armes biochimiques.
Cet article vous a été présenté par Clarisse Mélin et Carla Nicolas. Tiré des sources Le Monde, Quotidien et France Inter.
Une leçon de géopolitique.